France Inter.
Moi, pendant des années, j'ai aimé ce métier parce que je trouvais ça extraordinaire de se fondre dans des rôles, dans des textes, etc. Et quand je voyais mon père écrire des bouquins sur sa vie, faire des émissions de radio où il parlait en son propre nom, j'ai toujours dit, moi, je ne ferai jamais ça.
J'ai eu cette chance toujours de travailler et du coup de ne pas me retourner tellement en me disant mais pourquoi je suis pas là moi. En fait, ça a été tellement une chance de pouvoir exercer ce métier, c'est tellement une chance toujours. Voilà, je fais mon petit bout de chemin, je me retourne pas trop, non, je me suis jamais dit pourquoi je fais pas davantage de cinéma.
Dites-lui que je l'aime est à l'affiche. Roman Boringer réalise un film à partir du livre de Clémentine Autain, mais en ajoutant aussi son histoire. Ce film magnifique présente deux femmes d'aujourd'hui qui, enfants, ont eu ce qu'on appelle des mères défaillantes. C'est leur père qui les a élevées, aimées, construites. Alors comment grandit-on avec cette carence maternelle? Quête et enquête, Dites-lui que je l'aime parvient à mélanger les genres. Il y a une part documentaire, mais aussi une reconstitution, une part de fiction, une enquête et même un conte. Des formes multiples pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à ces deux mères mortes très jeunes. Elles avaient la trentaine, elles étaient belles, brillantes, malheureuses, absentes. Savoir, c'est peut-être comprendre et se comprendre. Bonjour Roman Boringer.
Bonjour.
Merci d'être là et merci pour ce film. J'ai beaucoup pleuré, mais pas seulement. Je me suis réjoui de constater aussi que Clémentine Autain et vous aviez réussi par un long chemin, sinon à pardonner, du moins à vivre mieux ce manque de mère avec lequel vous vous êtes débattu. Votre invitée, vous la dirigez en ce moment au théâtre. Bonjour Anne Charrier.
Bonjour Vincent.
Vous êtes seule en scène dans un texte de Nicolas Mathieu, Rose Royale, au studio de la Comédie des Champs-Élysées, après avoir créé la pièce à Avignon. Rose, c'est votre personnage, une femme seule qui a vécu des amours malheureuses et qui rencontre un homme. Va-t-elle enfin découvrir l'amour doux et le bonheur à deux? Suspense. Bienvenue dans le Grand Atelier.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Roman Boringer, quel est l'état de votre esprit maintenant que le film est sorti?
Ouf. Ouais, ça a été très intense, cette sortie. Je pense que toutes les sorties le sont. Peut-être le film m'expose à des rencontres très émotionnelles avec les spectateurs aussi, des partages autour de nos histoires communes, qui fait qu'on se donne beaucoup les uns et les autres partout où j'ai été présenter le film. Il y a une grosse émotion à avoir accompli cet objet de cinéma. C'était pas très élégant, mais j'ai eu l'impression d'un... J'ai regardé comme une vache accouchée d'un veau. Quand il sort par les sabots, tu sais, c'est un petit peu une aventure. J'ai eu l'impression d'une mise à bas, je dois vous dire. J'ai été très touchée par le retour des critiques, des papiers, des gens dans les salles. Très, parce que l'objet étant très...
hybride.
Partant de mon intime, vraiment puissamment, particulièrement, la réception et la rencontre et la connexion est tellement quelque chose que j'ai espéré pendant l'écriture, le montage, etc., que quand c'est arrivé, là, parce que ça arrive, ça m'a beaucoup bouleversé, un peu comme une enfant. Enfin, je sais pas, tout ça a été un moment assez fort.
On vous ramène toujours au succès des Nuits Fauves.
Oui.
C'est vrai, dans toutes les émissions. Mais avant ce film, vous étiez en scène avec Peter Brook à 16 ans. C'est important de rappeler que vous avez été élevé au théâtre. Vous étiez Miranda dans La Tempête et vous aviez 16 ans avec Peter Brook. J'ai envie qu'on l'écoute. C'était en 2014 parce qu'il parlait de la direction d'acteurs. Et comme vous dirigez et des comédiens et Anne Charrier, ici présente à Paris, on écoute Peter Brook.
J'aime le mot « direction ». On se trouve au milieu d'une forêt et on peut aller à droite ou à gauche et on cherche la bonne direction. Alors si on comprend que le mot direction, c'est un mot très noble, et celui qui dirige est le compagnon et le guide qui cherche peut-être à aider, tout en se trompant très souvent, de trouver avec le reste de l'expédition la bonne direction. dans ce sens-là, on dirige et il y a une direction. Mais si c'est dans le sens des sociétés aujourd'hui, ou d'une grande banque, où qui est le directeur et qui dirige et qui donne les indications, j'ai horreur de cette idée qu'on dirige les acteurs.
Le doux accent britannique.
Quelle intelligence.
De Peter
c'est marrant
Hope.
Parce que quand vous avez dit diriger, j'allais préciser en disant, oh bon, moi, c'est pas vraiment diriger, quoi. Et en fait, il éclaire tellement ce mot. C'est vrai que si diriger, c'est dire, tiens, essayons un peu à droite, je vois un peu de lumière à gauche, tiens, le chemin a l'air mieux par là. Là, c'est vrai que c'est un beau mot.
Lui, il dit prendre un chemin, aider tout en se trompant, trouver ensemble la bonne direction.
Ouais.
Anne Charrier dit oui.
Ah oui,
c'est
non,
ça
non,
pour vous,
c'est...
être dirigé.
Oui, enfin, être dirigé par Romane au moins. Le sens n'est pas le même pour tous.
Comment est la metteuse en scène Romane Boringer?
Elle doute, et en même temps, elle est très droite, et elle a la même singularité que celle qu'elle propose dans son film, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très accompagnant, de très tendre, et en même temps de très déterminé, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas exactement où elle va, mais elle sait où elle ne va pas.
On va continuer de parler de votre travail, de vos travaux, puisqu'il y a pour Romane du cinéma et du théâtre et pour Anne Charrier ce rôle, ce seul en scène, Rose Royale. On écoute Solane avec Yoa, Thelma et Louise.
Plus t'es bourgeois, moins t'as de trucs à dire. J'ai pris ma cravache et mes bottes de cuir. J'compte plus les moutons ou les violeurs qui passent à la télé. J'méprise les bouffons et les suiveurs qui les font prospérer. J'pardonne à personne, j'te l'ai dit, j'suis redoutable. J'veux pas de fils de un, pas de connard à ma table. Équipe de copines dans la voiture, cheveux dans le vent. Brille comme des étoiles qui traversent le ciel incandescent. Et j'vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol. Gloire ou folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, coup de route, on lâche rien à part le frein. J'prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma. Et j'vais tuer mon idole, prendre la fuite, l'effacer au vitriol. Gloire ou folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, coup de route, on lâche rien à part le frein. J'prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise. D'éviter des vérités, des petits lapins ont détalé. Ça leur fait mal de quémander, de baver, de se faire recaler. Ça fait les seigneurs, ça se complaît dans le lamentable. S'ils nous balancent des miettes, nous on va retourner la table. Moi je me suis perdue et retrouvée dans les bras de mes douces. À danser autour d'un bûcher, ce soir la lune est rousse. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol. Voir au folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, coup de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma. Je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol. Voir au folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, coup de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise. Partir comme Thelma et Louise. Comme Thelma et Louise. Pour l'amour des hystériques, si on leur offre volte-face, ça part en chalade historique. Écran de fumée, tête dans la crasse. Coup de phalange dans les obliques, les ignorés arrivent en masse. Y'a une justice vitriolique à se faire descendre par des pétasses. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, l'effacer au vitriol. Gloire ou folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, bout de route, on lâche rien à part le frein. Je prends la vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise.
Le grand atelier. Vincent Josse. Sur France Inter.
J'ai une grosse question, c'est Zabou Bretman qui dit quelquefois il y a des grosses questions en interview. Romane Boringer, quelle mère êtes-vous? En tout cas, quelle mère, essayez-vous d'être?
Mon problème, c'est malgré le film que j'ai réalisé pour dire tout va bien, tout va mieux, je suis une mère qui voudrait toujours être autrement et qui voudrait toujours être meilleure et ça me fatigue. C'est-à-dire, ça m'émeut d'avoir des enfants, ça m'émeut de les voir, leur personne me bouleverse, je suis mère inquiète parce que je vois leur beauté, leur pureté, leur candeur dans un monde qui m'effraie, donc évidemment je suis une mère inquiète. Je suis une mère qui vit ce passage de la fin de la petite enfance et du début de l'adolescence, donc là aussi une espèce de de les laisser être, devenir eux-mêmes. Donc un peu secouée aussi par ce moment. Je suis une mère qui n'est pas très capable d'être autoritaire. Je suis une mère aimante, le plus présente possible. Je suis une mère heureuse d'être avec eux quand j'ai des moments. Je ne sais pas comment dire.
Ça s'appelle une mère parfaite.
Non. je suis une mère... Bon, ce que je peux dire, c'est que je suis une mère très émue d'être leur mère, quoi.
Je rappelle que vous avez manqué d'une mère, même si elle para quand vous avez 9 mois et que vous la voyez quelquefois, quand vous grandissez, vous n'avez pas arrêté de la voir, vous l'avez vue, mais c'est quelqu'un qui s'est drogué, c'est quelqu'un qui n'était pas capable d'élever sa fille, et c'est votre père qui s'est occupé de vous. Alors, une fois, même souvent, on lui a dit « Est-ce que vous êtes à la fois père et mère ?» Et à Mireille Dumas, il a répondu ça.
Non, la mère, non, on ne remplace pas la mère. Oui, c'est la grande absence. Mais maintenant, elle est très présente en moi et c'est bien ça la merde, c'est que j'y pense tous les jours, quoi. On va finir par le mettre dans un petit paquet et puis le mettre dans la colonne de ce qu'on n'a pas fait, quoi.
Quel père vous êtes ?
Moi,
vous qui n'avez pas de modèle de père, justement.
Ouais.
Quel père vous êtes ?
Moi, je suis un père qui parle, voilà, c'est tout. Alors, je parle dans la cuisine et puis ceux qui veulent bien entendre, ils entendent. Je suis pas un père directif, je suis pas un père... Je suis pas un père laxiste non plus, mais j'ai pas d'autorité non plus. J'ai aucune autorité.
Est-ce que c'est vrai qu'elle n'a pas eu non plus une enfance facile, Romane, dans le fond ?
Non,
avec la disparition de sa mère très jeune.
Non, mais elle a toujours eu de l'amour quand même.
Oui, hein, okay. Un sacré caractère aussi.
Bah, c'est une Chinoise, hein, c'est une Asiate. Hein.
Mais sa maman était...
Oui, mais elle aussi, elle est carteronne.
Chinoise ou... Oui.
Vietnamienne,
hein. Ouais.
On découvre des choses en venant vous voir, cher Vincent.
Vous n'aviez pas entendu ça.
Non.
2009.
Ouais.
Elle a du caractère, Romane.
Ouais.
Et puis moi, je parle à mes enfants.
Ouais.
Je parle à ma fille.
À sa manière.
Dans la cuisine.
Ouais. À sa manière.
Mais c'est vrai qu'il était là, Richard Boringer. Il était là avec Romane.
Oui. Tout ça est très flou, finalement, quand j'y pense. Mais, il était totalement là. Je me demande même bien comment il a fait. Ma mère a dû partir. J'étais nourrisson, quoi, bébé. Quand j'ai vu naître mes enfants, je me suis dit, quel boulot, en plus. Donc, je me demande bien comment il a fait. Bon, on avait mon arrière-grand-mère, qui était un espèce de socle, un peu... qui était la base, un peu... Mais oui, on a eu cette partie de vie tous les deux, de 0 à 8 ans, avant qu'ils se remarient, qu'ils fassent la famille. On a eu une période radeau, quoi. Hein, je dirais radeau, on est amarrés l'un à l'autre. Mais quand j'y pense, j'étais quand même entourée d'adultes, pas très adultes, c'est-à-dire, disparition d'une femme, d'une mère, donc pas adulte.
Hein. Donc vous ne saviez pas grand-chose.
Donc je ne savais pas grand-chose, c'était parti où, quand, avec qui, pourquoi, j'ai jamais posé ces questions. Moi, ce que je voyais, c'était mon père qui, à l'époque, était vraiment pas encore acteur et ne travaillait pas, était plutôt vraiment dans la galère.
Hein, oui, il a eu du succès après 40 ans, votre père.
Ouais, très saltimbanque, je sais plus, on était recueillis chez des gens, chaleureux, sympathiques, mais des morts de vie, comme ça, tu passes un moment chez un tel qui a de la place pour toi à ce moment-là et c'est chaleureux, puis tout d'un coup tu vas chez mamie, parce que là c'est l'endroit où on se repose, sans doute une de belles mères de passage à l'époque qui ont pris soin aussi pendant quelques mois d'affilée, mais enfin tout ça est des collages, quoi, avec un papa quand même à l'époque qui se battait aussi pour lui tenir debout et tout ça, donc j'ai le souvenir quand même d'adultes qui n'avaient pas l'air tous très en forme et sûrs d'être adultes. Et donc, moi, de me frayer un chemin là-dedans en me disant, moi, il faut que ça aille, quoi. Faut pas poser de problèmes supplémentaires. Faut se tenir bien, quoi. Puis la vie est belle. Et puis... Donc, j'ai, moi, développé étonnamment une personnalité assez enthousiaste.
Et positive, ouais.
Oui, partante. Papa, il m'emmenait sur les tournages. Je dis, ah ouais, super. Ou quand il a commencé, quoi. Mmh. J'étais le petit paquet, le petit sac à dos. Je voulais pas poser de problème. Et je me forçais pas, hein. J'ai développé, du coup, une nature vraiment assez allante, quoi.
Que vous avez toujours.
Ouais, franchement.
Vous donnez l'impression d'être forte, mais peut-être que ça vous agace qu'on vous dise ça,
non,
Romane Boringer.
Non, je suis contente, non.
Hein?
Non, ça m'agace pas.
Et c'est le cas.
Ouais, franchement, j'ai une nature...
Elle se tourne vers Anne Charrier.
Entreprenante. Forte et sensible.
Forte, voilà, et sensible.
Forte et extrêmement sensible.
Mmh. Puis il y a toujours cette question de qui était ma mère, pourquoi j'ai pas eu une mère comme les autres.
Bah maintenant, il n'y a plus, etc. parce que j'ai fait un film.
Et maintenant, il y a ce film. Et ça qui est passionnant dans le film, c'est qu'on a l'impression que nous, spectateurs, vous nous prenez par la main pour essayer de comprendre, en même temps que vous, qui était cette mère. Et vous avez retrouvé des photos, il y a des films Super 8, c'est une femme magnifique, effectivement vietnamienne et française, et qui s'est droguée assez jeune. Mmh. Et c'est pour ça aussi que vous l'avez perdue jeune, elle n'avait pas 40 ans, comme la mère de Clémentine Autain. Et vous tissez vos deux histoires à Clémentine Autain et à vous. Et vous cherchez quoi finalement? Est-ce que vous cherchez à la comprendre, à vous comprendre? C'est quoi le fin mot de cette enquête sur votre mère? Parce que c'est une quête et une enquête.
Oui. Alors en fait, si vous pouvez résumer vraiment, j'ai trouvé maintenant quelques... Parce que ce projet était tellement, en même temps, organique, il s'est tellement imposé à moi en lisant le livre de Clémentine.
Oui, vous vous êtes reconnue dans ce livre.
Oui, je me suis tellement reconnue, comme si elle était éclaireur de ma propre histoire, qu'elle allait me donner les moyens avec son récit qu'elle avait réussi à ordonner, oui. Qu'elle allait me trouver enfin les moyens de recomposer le puzzle de ma vie, quelque part. Quel était le but de tout ça? En fait, le film, il dit cette phrase que ma psy canalise à une époque m'avait dit magnifique, qui est toute simple, mais qui est en fait toute une quête quand même. Un jour, elle m'avait dit, Roman, il faut aller consoler l'enfant qui est en vous. Et en fait, c'est la quête du film. C'est-à-dire, tout d'un coup, s'apercevoir qu'on a laissé derrière soi un endroit de l'enfance, une personne de petite taille qui n'a pas été consolée parce qu'on n'a pas complété le récit et tout ça. Et donc, il faut retourner à cette source et réemprunter le chemin pour aller voir où on a laissé cet enfant et lui apporter des réponses qu'elle n'avait pas eues à l'époque qui vont l'aider.
J'aime bien que vous parliez de la psy parce que ça aussi, vous reconstituez Roman Boringer chez sa psy. Alors ça, c'est de la fiction, mais ça s'est produit quand même. Et la psy, c'est la merveilleuse Josiane Stoléru.
Vous aviez quel âge quand elle vous a abandonné à votre père?
9 mois, je crois. Enfin, pas vraiment abandonné, elle est partie.
N'ayez pas peur de dire abandonné. Abandonné. C'est sans doute comme ça que vous vous êtes senti. C'est vous que vous avez envie de raconter à travers cette histoire. Vous êtes comme écrit Pérec, une enfant qui joue à cache-cache et qui ne sait pas ce qu'elle craint ou désire le plus. Rester cachée, être découverte.
Je sais pas.
On a vraiment l'impression d'être chez votre psy, Anne Charrier. Comment avez-vous vécu ce film qui, encore une fois, avance comme ça à tâtons, essaie de retrouver à la fois ce qu'a vécu Clémentine Autain, qui, elle, va dire son texte en voix off, mais il y a aussi des reconstitutions. Il y a une comédienne qui joue Dominique Lafin, sa mère comédienne, et une petite fille qui joue Clémentine. Et puis, il y a ces gens qu'on va interroger. Romane va interroger des femmes qui ont gardé en pension sa mère. Mmh. Elle l'ignorait. Et les réponses vont apporter des choses très intéressantes, très passionnantes et permettre à Roman de remplir des cases vides.
Moi, je trouve ce film tellement singulier et de façon très étonnante. Je découvrais bien sûr l'histoire de Roman et de Clémentine, ce tissage si subtil entre la réalité et la fiction et qui nous amène à une forme de réparation. Il y a du beau là-dedans, cette phrase m'accompagne depuis une semaine. Et ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est que sans avoir vécu les traumatismes qu'elles deux ont vécu, on a tout un rapport à nos mères et à la parentalité et à la maternité qui nous est propre et elles viennent mettre un baume dessus. Et
vous ça, aussi, vous avez ça... deux enfants, comme Roman.
J'ai deux enfants, oui, qui ont plus ou moins l'âge des enfants de Roman, qui sont un peu plus âgés.
Une maman qui était secrétaire et un père ouvrier maçon.
Ouais, non, mon père était artisan maçon.
Ah, voilà.
Ma mère était très présente physiquement et très accaparée par l'entreprise, par ses angoisses personnelles, par son rapport à sa mère qui était particulier aussi. Et ce film m'a bouleversée. Voilà, ça vient toucher à quelque chose de très intime
Oui, alors qu'on a l'impression... encore une fois, qu'on ait vécu ça ou pas.
Et absolument.
Vous nous embarquez.
Ça parle de nous tous, à travers un parcours très singulier. Et j'ai trouvé ça magistral.
Clémentine Autain a dit oui tout de suite pour apparaître à l'écran.
Immédiatement, je suis encore stupéfaite de la liberté, du manque de l'absence de défiance qu'elle a eue avec ce projet. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle m'a livré son livre qui parle de ses souvenirs d'enfant, de elle enfant, de sa maman que j'allais représenter au cinéma avec une comédienne, de sa profonde intimité. Elle est, on le sait, une femme politique, donc toujours exposée à ce qu'on scrute le moindre de ses faits et gestes. Je ne sais pas d'où elle a... Alors, on s'aimait beaucoup. Elle avait confiance en mon regard sur son histoire, puisque j'ai été la même enfant. Donc elle pensait que je n'allais pas trahir nos sensations d'enfant. Elle avait confiance en ma compréhension intime de son récit, mais enfin quand même, tout. D'abord, elle m'a dit, fais-en ce que tu veux. Elle espérait que j'en fasse quelque chose de très différent de son livre.
C'est le cas, parce que, encore une fois,
voilà.
Vous allez
dans
plein d'endroits.
Ouais, elle espérait ça. Et puis quand j'ai eu besoin d'elle comme actrice, comme narratrice dans le film de sa propre histoire, elle est venue avec beaucoup d'humilité en me disant, oh, moi je sais pas ce que ça va donner, mais je veux bien. Enfin, j'ai été fascinée par la liberté qu'elle m'a laissée, qui m'a, moi, énormément aidée à me décomplexer, justement, de cet emprunt d'histoire et d'en faire ce que je voulais. Et je l'ai filmée dans le film, elle est
très touchante.
Ouais, d'abord, elle a une cinégénie folle.
Elle est belle.
Ouais, voilà. Et ensuite, elle me donne accès. Elle part comme ça, assez distante, avec son récit, comme une lectrice.
Puisque vous l'amenez, on vous voit, vous l'amenez en studio.
Ouais.
Vous mettez le casque, vous êtes très gentille avec elle. Vous êtes pleine de douceur et d'empathie. Ouais. Et ensuite, vous dites, voilà, on va enregistrer ta lecture. Enfin, il y a une forme comme ça de pédagogie, quelque chose de volontairement un peu didactique pour nous amener ensuite vers autre chose.
Voilà, et tout d'un coup, à travers son regard qu'elle a magnifique, on pénètre aussi à travers ses fragilités, les moments où l'histoire est trop lourde, remonte trop fort, on s'arrête, on recommence, celle qu'entraîne les souvenirs, elle est vraiment comme, vous savez, je voulais faire comme dans les contes, quelque part où il y a la fée Clochette qui fait tourner la page à chaque fois. Clémentine, elle est ça aussi dans le film, elle est l'éclaireur, le guide qui va m'emmener, moi, à plonger dans mes propres souvenirs. Et elle a dit ce grand oui, j'en suis encore vraiment étonnée, et je pense que... J'y vois aussi une présence de sa maman, c'est-à-dire que je pense qu'elle a une sensibilité, Clémentine, à la création, disons, artistique, à faire un film, à laisser la liberté à l'autre.
Sa mère a beaucoup tourné dans les années 80.
Ouais.
Hein.
Mais ce qui me touche beaucoup chez Clémentine, c'est ce qui en fait une personne, je crois, tellement verticale, c'est que elle a pas pensé à tout ça. Elle a jamais fait peser sur moi une sorte de petite inquiétude, de l'image qu'elle aurait. Elle a dit, ce film, c'est une part de mon... Elle dit, elle se livre avec honnêteté et tout ça, et elle dit, et après tout, pourquoi je m'en cacherais? C'est moi, c'est ma vie.
Elle a écrit ce livre et fait ce film en disant, mais j'avais envie de tenter de comprendre ma mère et aussi de transmettre mon histoire. Dans L'amour flou, vous racontiez votre séparation et la séparation des appartements. Vous n'êtes pas très éloigné de votre ex.
Oui.
Comme ça, les enfants voient les deux parents. C'était à la fois charmant, émouvant, drôle, mais c'était vraiment très intime. Et là, à nouveau, vous êtes dans la quête d'une mère et vous réussissez à percevoir des choses qui vont vous aider à aller mieux. Et ça se voit aujourd'hui. À chaque fois, c'est vraiment le moi qui est au centre de votre cinéma. Et Le Monde, qui fait un très beau papier sur le film « Dites-lui que je l'aime », dit « Romane Boringer pratique la cinéthérapie ». Et vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Non. En fait, à chaque fois, avec L'amour flou et « Dites-lui que je l'aime », paradoxalement, je suis quelqu'un de très pudique. Enfin, ça m'intéresse pas du tout de m'exhiber. Mais à chaque fois, j'ai eu une espèce d'intime conviction qu'il y avait là comme... un récit populaire, je vous dis franchement, partant tellement intime, sur l'amour flou, c'était la famille, la peur de blesser ses enfants, la peur qu'ils se sentent déstabilisés par la séparation de leurs deux parents. Donc comment on fait ça?
Vous n'avez jamais eu confiance en vous?
Oh, je l'ai parfois, sinon j'arriverais pas ni à monter sur scène, j'ai toujours plein de doutes, mais c'est mélangé avec une grande aussi certitude que j'ai des choses à dire, à faire, oui. Donc c'est un mélange. Mais donc L'amour flou était guidé par cette impression que c'était un récit des gens que cette histoire de séparation, d'amour, d'enfant, c'était moi et les gens, comme une chanson qu'on partageait. Enfin, moi, je suis plutôt de culture populaire, je sais pas comment dire, donc je suis pas dans mon coin, j'ai envie de partager. Et dites-lui que je l'aime, aussi singulier que ça puisse paraître, une mère abandonnante. En fait, c'est l'enfant. J'avais envie de d'écrire ce film parce que j'avais l'impression qu'il parlait de toutes ces blessures d'enfants qu'on a, qu'on s'est mal occupé de nous, qu'on voudrait qu'on nous fasse, qu'on nous dise, est-ce qu'on nous a aimé vraiment, est-ce qu'on vaut le coup d'être en vie, est-ce que, dites-nous qu'on nous a aimé, maman, papa, ou dites-nous que ça vaut le coup, enfin qu'on a le droit d'être là, qu'on est devenu des adultes.
Et le film, comme le livre, répondent oui.
Oui, mais voilà ce qui m'a mû dans ces deux projets à chaque fois. Si étonnant que ça puisse paraître, c'est parti du moi, mais c'est par une envie de j'avais l'impression qu'il y avait une histoire à raconter qui concernait les gens, aussi singulière puisse paraître la mienne.
Ouais, j'aime bien cet adjectif populaire. Anne Charrier, un mot ?
Oui, parce que c'est le cas, en fait. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que c'est pas un film qui sert à te réparer, mais qui va réparer vraiment plein de choses, et même qui sont pas à la hauteur du traumatisme que vous avez vécu, mais qui sont vraiment présentes chez chacun d'entre nous. Le fait de casser la chaîne de l'abandon, c'est aussi casser la chaîne de la violence, c'est aussi casser la chaîne de, je sais pas, quels peuvent être les traumatismes qui accompagnent une enfance, et la maternité et la paternité, mais il y a vraiment quelque chose dans ce film qui parle à l'universel, à l'être humain en général.
J'ai quelque chose en moi de populaire, disait à l'instant Romane Boringer. J'aime.
Mais c'est pas. Oui, c'est pas de la démagogie. Je sais pas ce que j'appelle.
Je comprends bien.
J'ai toujours aimé. Je me sens tout à fait. Je me sens tout à fait. À la fois moi et banal. Enfin, je me sens pas du tout à l'écart dans mon truc, dans ma tête. Je suis touchée et rejointe par les gens que je rencontre. Enfin, je sais pas comment dire. Et donc, je peux pas imaginer faire du cinéma pour faire une thérapie personnelle. Ce n'est pas du tout mon.
Non, vous êtes dans le partage.
Voilà, c'est ce à quoi j'aspire, quoi.
Et vous écoutez parfois Stevie Wonder.
Oui.
Hein, c'est pour ça qu'on l'a choisi, oui, quand il chante I Wish.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Je m'appelle Rose. Ici, c'est chez moi. Le Royal. J'y viens pratiquement tous les soirs vers 19h. Ah, c'est un peu dans son jus, hein. Je suis pas certaine que qui que ce soit ait jamais fait les vitres. Mais je m'y sens bien. La bière est fraîche, les chiottes sont propres, la clientèle variée et la musique, c'est du rock. Que demander de plus? J'ai 50 ans. Je m'en fous. J'ai de beaux restes.
J'aime bien ce début, Reste. Il y a un côté un peu gouailleur, presque du côté de chez Arletty. Vous êtes allé chercher ça, non,
Anne Charrier ? Non, j'ai plutôt été chercher du côté de chez Charrier. parce que je pense que j'ai un peu ça dans la vie, cette espèce de gouaille, de façon de parler. Je dis samedi.
Samedi. Samedi.
Voilà. Moi, je n'entends pas certaines choses, c'est mais je les entends là quand je
m'écoute. Les Charentes.
Ouais, les Charentes. Je l'entends là quand je m'écoute.
C'est net, hein.
Et puis il y a quelque chose plus dans l'attitude du personnage qui entraîne cette gouaille.
Vous arrivez en scène comme ça, dans
comme
votre
ça.
Robe rouge, oui, avec un certain culot.
Ouais.
Et vous vous adressez à nous.
Elle a envie de dire quelque chose, elle a envie de dire, voilà, ça se passera plus comme ça s'est passé. Je vous le dis tout de suite.
Je me ferai plus avoir.
Et puis bon...
Et voilà, et elle rencontre quelqu'un. Et ce que j'aime, c'est ce passage de ce culot, de cette femme bien dans sa peau, a priori, vers une intense gravité et vers quelque chose de tragique. Quelques minutes plus tard, la pièce dure à peu près 1h20, 1h05.
1h10. Hein,
quelques minutes plus tard, on entend ça, par exemple.
Ah, on n'était ni jeune, ni beau, ni très heureux. On n'avait pas la vie devant nous. On était juste un homme, une femme, avec nos problèmes d'alcool, de fric, nos rides, nos coïts insatisfaisants, nos souvenirs, nos factures sur un petit meuble dans l'entrée. Un homme et une femme qui se tenaient la main et qui croyaient se comprendre. Il n'en faut pas plus pour faire un couple.
Romane Boringer, vous êtes touchée par quoi dans ce texte, par cette rencontre hasardeuse avec cet homme ?
Je suis touchée par plein de choses, hein, dans le spectacle. Je vais essayer de synthétiser. D'abord, Anne m'a fait découvrir le texte de Nicolas Mathieu. Hein. C'est par son amour pour ce texte que moi, je l'ai découvert. C'est
qu'on peut appeler une nouvelle noire.
Ouais, une nouvelle sur un mode un peu thriller. J'ai trouvé ça hyper passionnant. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup en ce moment et grand bien nous fasse de ce que c'est que l'emprise, des signaux, de la violence sourde, présente dans le quotidien des femmes. Donc on en parle beaucoup, je trouve que c'est magnifique, et sous plein de formes, sociologie, enfin, et je trouve que magnifique que Nicolas Mathieu ait choisi la forme du thriller pour du coup prendre la main comme ça du spectateur et l'emmener dans une réflexion profonde finalement.
Sans asséner. Hein.
Mais sans asséner, de manière hyper nuancée, c'est vraiment très délicat. Petit à petit, il y a quelque chose d'un climat qui s'instaure, ouais. De menace. On voit pas, elle ne voit pas tout à fait les signes, ils sont très habilement dissimulés. Enfin, je trouve que la forme qu'a choisi Nicolas Mathieu pour le faire, de prendre comme ça le spectateur dans un format de récit différent, un peu que voilà, est tout à fait à la fois captivant et donc très impactant sur la sensation qu'on en a, parce qu'on est pris dans un truc, on se demande pas on croit pas tout à fait que ça parle de ça, et puis tout d'un coup on y est, quoi, et donc ça impacte beaucoup. Donc ça m'a passionné, la langue, l'écriture. Voilà, cette nouvelle comme ça, très captivante, haletante. On se dit, oh tiens, c'est intéressant qu'on est, et bam, on est rentré dans le cœur de l'âme de cette femme.
Avec un coup de théâtre final, voilà. Incroyable. Et... Anne Charrier, vous vouliez porter ce texte en scène,
ouais.
Pour quelle raison? Est-ce que vous vous retrouvez parfois dans la vie de Rose? Est-ce qu'il y a des choses qui vous touchent particulièrement?
Oui, forcément, il y a des zones de résonance. Mais surtout, je me suis dit, mais je pourrais être cette femme. C'est-à-dire que si mes choix avaient été très légèrement différents, je pourrais être cette femme. Je viens de ce terreau-là.
Être sous l'emprise d'un homme ?
Être sous l'emprise d'un homme, être dans une grande solitude, parce qu'il y a ça aussi, avoir un rapport à l'alcool qui essaye de combler justement cette solitude.
Elle boit beaucoup.
Elle trompe en fait l'ennui et toujours la solitude au bar en se disant qu'elle a plein d'amis et que... Oui. Et moi, cette vie-là, j'ai été longtemps serveuse quand j'étais...
Quand vous êtes arrivée à Paris.
Comédienne, oui. Ouais, même avant en Charente et en Irlande. Et il se trouve que ces personnages-là, on les voit ils sont aussi bien masculins que féminins, mais ils viennent chercher quelque chose dans la soirée, dans la nuit, dans l'alcool, de l'ordre de l'exceptionnel, peut-être du miracle, qui me bouleverse, moi. Je trouve...
Ça vous a construit, le théâtre ?
Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça a été... Ouais, ouais, ça a été un... Ça a été très important, ouais.
Ça vous émeut.
Ce qui est très, pardon, hein, ce qui est très beau, moi aussi, dans la rencontre que je voyais de faire Anne, Rose, tout ça, c'est que dans Rose, il y a quelque chose d'une mélancolie. C'est une femme qui a sans, la vie n'a sans doute pas répondu à toutes ses aspirations secrètes. Bon, elle a élevé ses enfants bien, comme elle dit, elle a pas à rougir, elle a fait son petit bonhomme de chemin. Mais bon, ce qui est beau, c'est qu'à un moment dans la vie, bon, il y a deux voies, hein, qui, j'ai l'impression que Anne a à un moment donné saisi l'opportunité d'essayer de donner tout pour répondre à ses aspirations profondes, ce qui sans doute différencie vos deux parcours.
Oui, oui, bien sûr, absolument. C'est-à-dire que, et puis moi j'ai eu de la chance aussi d'avoir la possibilité d'aller vers mon désir. J'ai mis du temps à trouver ce chemin, oui. Parce que c'était pas du tout ma voie, ni la voie qu'on avait, si tant est qu'on avait tracé une voie pour moi, mais ni la voie qu'on avait tracée pour moi. Donc j'ai mis du temps à trouver ce chemin, mais ça a été un grand... Ça a été une grande chance et ça a été c'était nécessaire. En fait, très souvent quand même, les vies d'artistes, elles sont mues par une nécessité. On a besoin, on ne sait pas très bien laquelle est-elle, parce qu'on sait juste qu'il faut aller quelque part. Il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on soit en mouvement, il faut qu'on aille vers quelque chose. On a du mal à... Et j'ai l'impression que le théâtre, le jeu, hein, beaucoup plus largement, était ça pour moi. C'était, je ne savais pas très bien, mais il fallait que...
Il fallait vous sauver.
Il fallait que je trouve quelque chose là-dedans. J'étais pas en perdition, hein, j'étais dans une forme d'errance, quoi.
Ouais, c'est beau d'entendre ça, que l'art construit. Romane Boringer a 16 ans sur une scène avec Peter Brook. Vous qui disiez, on entendait tout à l'heure, je veux surtout pas faire comme mon père. Finalement, le virus arrive et vous trouvez des familles de théâtre. Parce qu'il y a une fidélité avec plein de gens chez vous.
Oui, c'est vrai.
Je pense à Pierre Pradinas, metteur en scène, vous avez souvent travaillé avec lui.
Ah bah
L'auteur Rassoff, vous travaillez toujours avec lui. Vous vous êtes construite des familles.
Oui, tout à fait. Mais je crois que si je remonte maintenant, ce que dit Anne, c'est que bon, moi je pense aussi à tous les gens qui ne sont pas artistes et qui ont sûrement les mêmes aussi choses qui les remuent. Alors ils doivent trouver dans la vie quelque chose. Bon, bah nous, en tout cas, moi à 15 ans, juste avant ces fameuses, quelque chose bouillonnait en moi, quelque chose n'avait pas tout à fait trouvé sa place. Bon, c'est un peu tôt, mais j'avais sans doute ces petits chagrins originels qui bouillonnaient. Il fallait que je trouve un endroit pour devenir. Voilà, moi mon endroit pour devenir. Ça a été tout de suite un théâtre. J'ai dit souvent, mais c'est vrai, je pense que le théâtre me faisait penser à un ventre, à un endroit protecteur, un endroit de sécurité, un endroit où il pourrait rien m'arriver. Le théâtre et plus largement les troupes, le lien, les familles. J'ai sûrement manqué de ce côté de sécurisant de la famille. Moi, je l'ai trouvé. C'est pour ça que j'étais si folle quand j'étais jeune de être en troupe, que quand un projet s'arrêtait, j'avais envie de mourir. Je me disais, il n'y en aura plus jamais un autre comme ça, puis hop, ça recommençait 6 mois après, une autre famille, elle est encore mieux que celle de l'avant. Enfin, je me réinvestissais à chaque fois. Je n'ai fait que, finalement, soigner peut-être ce sentiment de solitude que j'ai éprouvé plus petite. Trouver des familles, faire des familles.
Et ça continue.
Ce métier a été idéal pour ça.
Oui.
Et c'est pour ça que j'ai développé des liens, 10 pièces avec Pierre, 10 avec Gabor. C'est pour ça que quand je réalise des trucs, j'ai envie de voir les acteurs que je connais, que j'aime, une troupe, la famille, tout ça. Oui, tout ça, c'est pour restaurer un lien, c'est sûr. Et c'est un parfait endroit pour le faire. On a beaucoup de chance. J'ai vécu des aventures tellement heureuses, que ce soit sur des tournages ou dans des troupes. Enfin, ces familles-là, elles sont bigarrées, elles sont drôles.
Romane Boringer, elle a joué Shakespeare. Elle a joué Annie Ernaux, seule en scène aussi. Et puis Anne Charrier prouve par son t-shirt que Romane Boringer a été catcheuse dans une série.
Elle a retrouvé une vieillerie.
Je la porte toujours avec moi.
Devant le micro, Anne.
Ouais, je la porte toujours avec moi.
Mais non, elle est folle.
Décrivez-le.
J'ai un t-shirt où il est inscrit Lady Punk. Et Romane pose comme une catcheuse avant d'envoyer un
low kick.
High kick plutôt.
C'est génial, c'est collector, ça.
Voilà. C'était une hyper collector.
C'était une série pour Arte réalisée par Audrey Estrugo sur justement des femmes qui voulaient sortir de leur quotidien et qui s'engageaient comme ça dans le catch.
Je vous imagine prendre des cours de catch.
Oh, c'était terrifiant, j'avais hyper peur. Et
mal.
Déjà, quand j'étais petite, je détestais genre le judo, il fallait tomber sur le tatami et tout ça. Et le catch, c'est que tomber. T'entendais
ouais,
bruit.
Ouais, en faisant du bruit.
Ça claque sur le. Ouais, il faut faire du bruit. Alors moi, c'était terrifiant pour moi. Mais bon, c'était marrant.
Je voudrais qu'on parle de ce que c'est que d'avoir la cinquantaine, parce que beaucoup d'actrices disent que c'est difficile, d'autres disent, mais non, maintenant on nous écrit enfin des rôles. Voici la vie de Karine Viard, c'était il y a quelques semaines, dans C'est à vous sur France 5.
C'est difficile d'être une actrice, d'abord on te pardonne moins de vieillir, on te scrute, à partir du moment où t'as un certain âge, on estime que t'es plus désirable, je veux dire, Brad Pitt, il est plus âgé que moi, mais tout le monde est là, ah, Brad Pitt, bon, il s'est pris un coup de pelle, comme moi, comme tout le monde. Bah, je veux dire, mais par contre, quand t'es une femme, c'est plus cruel, c'est plus dur, c'est plus rude, il y a moins de rôles de femmes, et effectivement, malgré MeToo, malgré tout ça, ça continue... Je crois que la différence des salaires, ça s'ajuste petit à petit, mais je crois que ça reste encore un peu. Puis une femme décidée, qui dit des choses, un homme, il est dans son travail, il est vraiment investi, c'est vraiment... Mais quand t'es une femme et que tu dis ça, t'es chiante, t'es difficile, t'es emmerdante, t'es hystérique, enfin ça va pas ou quoi?
Finalement, rien n'a changé à écouter Karine Viard. Comment vous
non, mais je mon expression préférée, le coup de pelle.
Ouais.
Moi, j'adore ces expressions.
Alors, est-ce que vous ressemblez, votre discours est le même ?
Je souscris totalement à ce qu'elle dit. Je suis partie à Londres hier pour une délégation à d'amis. On était plusieurs comédiennes de plus de 45 ans pour rencontrer des directeurs de casting. Et on avait cette discussion-là et on se disait, même la différence des salaires, on avance pour reculer. C'est-à-dire qu'il y a une époque où il y avait, on n'arrivait pas à une parité, mais il y avait autant de on faisait vraiment en sorte que les réalisatrices soient présentes et que ça a reculé. En fait, on croit qu'on cette avancée, elle se fera par à-coup. Elle se fera pas de façon nette et douce et juste. Elle va se faire par à-coup, on va gagner des trucs, on en perd d'autres, et on y retourne, et on y retourne. Donc, en fait, le combat, il est permanent, et le combat pour avoir des rôles, eh ben, c'est aussi de les écrire. Et puis, il y a encore ce truc d'avoir des acteurs. Et vraiment, j'ai pas du tout de problème. Moi, je veux bien... j'ai pas du tout de problème avec la différence d'âge dans le couple. Mais ce systématisme de l'acteur de 50 ans avec une actrice de 30 ans nous laisse un peu pantoise parfois.
Romane, l'âge pour une actrice.
Alors moi j'ai plein de, je pense plein de trucs différents, ils sont contraires, de toute façon ma pensée n'est pas très... Non, mais par exemple, moi j'ai 52 ans, je suis en pleine promotion de mon film, donc on me voit beaucoup, je suis claquée, je me lève le matin, moi par exemple, j'ai pas le temps de me soigner hyper, etc. Qu'est-ce qu'on se prend dans la gueule comme commentaire, comme...
Oui, à
comme,
Cannes, vous avez souffert de ça.
Ouais, mais tu t'hallucines, mais...
Ben, les haters.
Et moi je suis en pleine... 52 ans, j'ai pris du cul. mais je sais pas comment dire. Bon, ça c'est dans ma vie de femme. Puis tout d'un coup, pas. Je suis quelqu'un qui doit promotionner un truc, donc je me monte. Moi, je fais pas trop gaffe. Franchement, j'ai pas le temps, honnêtement. Et du coup, après, je lis des trucs. Mais moi, je pense même pas ça de moi. C'est les gens qui m'apprennent des trucs sur moi. Je veux dire, c'est pas doux. Hein. Franchement, faut se le passer. Hein.
Oui.
Moi. Je suis vraiment pas concentrée là-dessus. Donc, 7 minutes après, j'ai oublié, franchement. C'est pas ça qui va...
Quand je vous dis que vous êtes forte.
Qui va remplir ma vie. Je pense à autre chose. Mais par contre, il faut bien dire, c'est pas doux, quoi. Hein. Parce qu'après, on se dit, ah oui, c'est vrai, il a dit ça. C'est vraiment... Oh, oui, regarde, c'est pas terrible. Bon, ça fait se retourner sur... Bon, mais ça m'intéresse pas tellement, j'ai pas le temps. Mais il faut voir aussi, au sein même de notre propre métier, il y a pas que les... haters, les commentateurs, tout ça. Dans les castings et comment on parle des actrices et tout ça, je crois, c'est pas toujours très tendre. Hein. Dans les choix, il faut avancer, c'est une industrie, mais celle-là, tu crois pas qu'elle a un peu tapé.
Et c'est pas très audacieux non plus. Il y a quand même un petit manque d'audace. Il y a plein de films qui veulent camper la vie réelle des gens, et la vie réelle des gens, c'est pas d'être avec une nana sublime. Enfin, la plupart d'entre nous, on se réveille, on est quand même dégueulasses. Donc,
C'était Anne Charrier, mesdames, messieurs. Vous savez ce qu'on va faire ? On va écouter Joshua Aiden. C'est un poète et un chanteur britannique d'origine nigériane. Et on se retrouve juste après. Take this home.
With a little bit of luck and a handful of courage, we will make it through the night and out to where the sun is, where the love is. Manifesting with my mates, bright faced and beaming, backseat in Benji's Mazda. The world is loud but we sing louder. Pistol fingers through the window, my joy is a whistle, loud in its belief. After this something good is coming. My losses, they've taught me how to win. Maybe the reason I ain't that good at swimming is 'cause I was born with wings. And the answer's right here in our hands. It always was. It's all down to us. And that much I trust.
Atelier sur France Inter.
Romane Boringer, invité du Grand Atelier, avec son invité Anne Charrier. Je vous propose de nous quitter en écoutant Clémentine Autain, puisque, j'allais dire, tout part d'elle. C'est en lisant son livre « Dites-lui que je l'aime » paru en 2019 chez Grasset que vous avez eu envie à la fois de raconter cette histoire et de raconter dans son histoire la vôtre. C'est en ça que c'est aussi formidable ce livre, c'est qu'il a, il a plusieurs désirs. Et voilà ce qu'elle répond quand on lui demande si écrire sur sa mère et sa relation avec sa mère l'a aidé à comprendre Dominique Lafin.
Je crois que je me prouve que j'étais capable d'avoir une vie stable, que je n'étais pas dans la destruction. Et tout ce temps-là, je l'ai mise de côté pour arriver à ce point d'équilibre personnel qui me permet maintenant d'ouvrir cette porte. Mais vous voyez, c'est long, hein, plus de 40 ans, donc je suis passée vraiment dans une phase de compréhension, de découverte aussi de cette femme et de la considérer comme femme, avec ses failles. Et puis elle a donné l'essentiel, elle n'avait pas de volonté de nuire, c'était pas une maltraitance volontaire. Je ne peux pas dire que je n'ai pas été aimée par ma mère, c'est impossible. D'où cette aversion que j'ai pour cette phrase « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Ça me paraît quelque chose d'assez faux, au sens où on peut aimer quelqu'un et parfois ne pas être en capacité de le démontrer parce qu'on est soi-même mal. Et ma mère, elle était d'abord incapable de s'occuper d'elle-même. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne me voulait pas du bien, qu'elle essayait pas, à sa mesure, de faire des efforts pour être bien, mais elle en avait tout simplement pas la possibilité, la capacité. Avec un minimum d'humanité, il n'y a pas de raison de lui en vouloir. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour reconnaître qu'en fait, je ne suis pas si loin d'elle. J'ai plein de choses qui lui ressemblent et tant mieux.
Voilà, c'est beau, c'est une réconciliation
avec
sa mère.
Elle en parle tellement bien, non ? C'est clair, hein, y a presque rien à rajouter.
Mais j'ai ressenti ça en voyant votre film, pour vous aussi.
Oui, oui, moi je voulais faire un film de...
Réconcilier.
Oui, oui, un film d'amour. Anne parlait de cette phrase de « il y a de la beauté ». Retrouver... au contraire de des endroits de chagrin, d'offense, de blessure, je voulais retrouver tous les endroits où il est né de cette histoire un peu tragique quand même, plein d'endroits de beauté, des enfants, des petits-enfants, des rencontres.
Vous avez même découvert une famille.
Tout à fait, des forces en nous, nos capacités justement à inventer nos mondes. Elle nous a laissé plein de forces finalement, et c'est vraiment ça que je voulais. Il y a un chemin dans le film et dans le livre qui est vraiment qui est comme un cassé, comme un mail. Enfin, ça part vraiment du sombre. Et puis, il y a quelque chose qui s'ouvre vers, mais, oh, mais regardez là. Mais ça, quand même, et ça, t'as réussi ça. Oh, puis il y a ça, puis il y a tes enfants, puis il y a les jours qui passent, et puis, ouais. Et puis t'es devenue une femme vivante, gourmande, qui crée, qui fait ce film, sans doute que ma mère aurait aimé faire, donc quelque part pour elle, à sa place, pas à sa place, mais qui. Il y a une, je voulais rendre justice aussi à cette terrible injustice, hein, de cette vie, ces vies passées trop courtes. Donc il y avait vraiment dans ma démarche quelque chose de, qui est aussi dans mon caractère, de dire, oh mais regarde, il y a du beau, quoi.
Je trouve aussi que votre psychanalyste a bien travaillé.
Oui. Vous croyez?
C'est aussi un éloge de la psychanalyse.
Oui, oui, tout à fait.
Et petit hommage à Josiane Delerue, qui est quand même aussi un de nos points communs.
Bah oui, on est une actrice qu'on aime tellement.
On la voit beaucoup au théâtre et on l'applaudit à chaque fois énormément. Merci beaucoup, Romane Boringer. Je
merci.
Vous souhaite plein de spectateurs.
Mais
pour
merci,
ce film
Vincent.
Formidable. Dites-lui que je l'aime. Anne Charrier, bravo pour la pièce aussi.
Merci, Vincent. Merci, Romane.
Mais non, c'est ma.
Vous êtes seule en scène dans Rose Royale, dans votre robe rouge de Nicolas Mathieu, mise en scène donc par Romane Boringer. C'est au studio de la Comédie des Champs-Élysées à Paris jusqu'à...
Jusqu'au 28 décembre.
Amélie Micot a réalisé cette émission préparée avec Marion Guilbeault, assistée d'Alexandra Connet. Valentine Chédebois a programmé la musique. Il y avait à la technique Corentin Rouchy. Nous, on se retrouve, si vous le voulez bien, samedi à 17h dans la balade d'Alexis HK et puis dimanche, à la même heure, dans le grand atelier du chorégraphe Angelin Preljocage.